Alors, comme je vous le disais, PRS est pathologie prioritaire, qui est une problématique territoriale propre à la région, avec un mode de fonctionnement qu'on veut par pilote. Je vais m'expliquer. Le GRAD, ce n'est pas une société de service que vous pouvez interpeller sur une problématique de votre territoire. C'est un groupement qui est à disposition d'une stratégie voulue par l'ARS, voulue par le national, déclinée sur un niveau local. Et ce n'est pas toujours lisible, ce n'est pas toujours facile à comprendre de votre point de vue, puisque vous avez des projets locaux et vous voulez que ça avance. Le problème, c'est que c'est régional, 50 000 professionnels de santé, si on prend les établissements de santé, le public, le privé, tout le monde, donc c'est énorme. C'est énormément, on a parlé de structures, beaucoup de CPTS, beaucoup de DAC, beaucoup d'établissements de santé, public-privé, il faut coordonner tout ça. Donc, même si on commence avec beaucoup, puisqu'on atteint bientôt une centaine de personnes, ça reste totalement et largement insuffisant pour pouvoir s'en sortir. Et c'est pas non plus le volume, c'est là parce qu'on va être 3000 au grade qu'on va réussir. En fait, l'enjeu et la problématique, c'est d'arriver à résoudre des problèmes qui sont locaux, transposables, et sur lesquels on peut passer à l'échelle rapidement. Passer à l'échelle, ça veut dire qu'on va fonctionner avec du pilote, on va travailler avec des communautés, et ensuite, on va travailler au déploiement sur le reste du territoire en créant des grappes et des communautés. Ça, je vais vous expliquer. Déjà, pour reprendre les chiffres, hein, c'est-à-dire sur les pathologies prioritaires avec le diabète et le nombre de patients intégrés dedans, diabète, cancer, santé mentale, maladie coronaire, insuffisance cardiaque, en sachant que là, vous ne voyez pas la logique de la personne âgée, mais que le traitement, enfin, une maladie détachée, mais que derrière, toutes les pathologies associées et le parcours de personnes âgées, c'est un élément dans sa détection, de la fragilité, dans son inclusion, dans les différents parcours, tout ça, ça nécessite que ça soit extrêmement structuré et que ça soit extrêmement partagé par tous. Et donc, pour pouvoir vous accompagner, il faut absolument qu'on connaisse votre territoire, qu'on sache de quelle manière est-ce que vous fonctionnez, pour ensuite pouvoir vous accompagner par palier, parce que le numérique, c'est un peu... Je viens d'un établissement de santé, hein, je viens d'un centre de lutte contre le cancer, et quand on est passé à la numérisation, on avait des professionnels de santé qui étaient très très forts avec le dossier papier, et qui ont eu l'impression de perdre leur savoir quand ils passaient sur le numérique, parce qu'ils ne retrouvaient plus leurs informations. Ne plus retrouver ces informations, c'est capital dans une prise en charge. Donc, si on est perdu, on ne peut pas s'en sortir. Et donc l'enjeu, c'est d'éviter ça, c'est d'éviter cet effet que la numérisation peut avoir, c'est-à-dire qu'elle fait disparaître les choses, et il faut les retrouver. D'ailleurs, c'est un des reproches qui a été fait au DNP, où c'était trop fouillis, et donc c'est bien une des trajectoires de faire que les contextes dans lesquels vous allez utiliser les outils soient les plus représentés dans vos outils pour que ça soit facile de retrouver cette information. Souvent on dit « je voudrais un outil ergonomique », mais ce n'est pas tant l'ergonomie de l'outil, parce que même un outil qui est un peu compliqué, on finit par s'y habituer, et c'est plutôt de retrouver la bonne information au bon moment sur le moment thérapeutique dans lequel vous êtes. Donc ça, c'est un élément essentiel. Pour pouvoir faire ça, il faut arriver à un bon niveau de compétence, être éclairé au niveau numérique, et savoir quelles sont les choses sur lesquelles c'est essentiel, l'INS par exemple, identifier tous le patient de la même manière, en coordination si on n'identifie pas le patient de la même manière, c'est impossible d'y arriver, on va faire des erreurs. Donc il y a des socles sur lesquels on ne peut pas passer. Ça, on a besoin de savoir quels sont les gens sur le territoire, des CPTS, des EHPAD, des établissements de santé sur lesquels il y a des difficultés de s'intégrer dans l'INS ou de faire pour que ça fonctionne. Et donc l'enjeu, c'est vraiment ce diagnostic qui est un diagnostic perpétuel. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de pouvoir, avec le Ségur, avoir accès à un certain nombre de financements sur lesquels l'ARS est adossée pour qu'on ait des délégués de proximité, des délégués territoriaux qui sont présents sur le territoire et qui, eux, sont constamment dans l'évaluation de ce qui se passe sur le territoire, qui nous les font remonter et qui nous permettent de savoir bah, on est à telle étape, à tel endroit, on est à telle autre étape, à tel autre endroit. Quand un territoire, une CPTS, un hôpital ont besoin de se concerter et qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas sur le territoire et qu'on doit former les gens pour les faire monter et pouvoir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire des prises en charge structurées, eh ben, ce travail-là, il est fait de manière pilotée au sein du GRAD. Donc on identifie de cette manière-là, c'est-à-dire on a la population, on a le nombre d'établissements, on a le nombre d'établissements de santé, de professionnels de santé, de CPTS, de DAC. Tout est piloté, on se retrouve à avoir des indicateurs qui nous permettent de savoir sur un niveau territorial, là, par exemple, on est sur des CPTS qui sont impliqués dans un parcours, donc celles qui sont sur ce parcours sont regroupées sur cette cartographie. Plus c'est clair, moins il y a de patients potentiels, plus c'est foncé, plus il y a de patients. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que si on va dans un endroit où une CPTS a moins de patientèle, entre guillemets, plus la montée en charge sera lente, plus on sera focalisé sur des CPTS avec beaucoup de patients, et plus on aura des effets rapides de montée en charge. Donc ça permet aussi de faire des choix, de choisir l'endroit où sont les pilotes, et de choisir aussi derrière à quel endroit on va réaliser les accompagnements pour garantir que ça va monter aussi. Voilà. Et donc on le fait sur la partie de la cartographie, sur la partie cancer, sur la partie personnes âgées, santé mentale, insuffisance cardiaque et diabète. Ça ne veut pas dire que l'insuffisance cardiaque, il n'y en a que là. Ça veut dire qu'il n'y a que là où il y a des CPTS qui se sont construites, qui sont matures, qui sont placées en CCOPD, qui sont prêtes et qui fonctionnent, et pour lesquelles il y a un projet de santé qui en parle. Évidemment, au fur et à mesure, ces cartographies vont s'enrichir avec les nouvelles CPTS qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc, si on parle d'une CPTS sur la manière dont on évalue sur la dimension numérique, hein, pas sur la dimension des prises en charge, mais sur la dimension numérique, on regarde le projet de santé, on voit ce qu'on y retrouve, les descriptions, la manière dont d'accord de nos territoires avec les outils numériques, la dimension du système d'information, quelle est la dynamique territoriale, c'est-à-dire est-ce que la CPTS elle est dans le cadre de son bureau ou est-ce qu'elle a largement élargi, est-ce qu'elle a beaucoup de membres ou pas beaucoup de membres, et en fonction de ça, bah, ça nous donne des indications, la dynamique de l'équipe qui vont nous permettre de savoir un score de maturité globale qui nous permettent de voir ce qu'on doit faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec, ça veut dire qu'on va les soutenir. Par exemple, si on s'aperçoit qu'en termes de maturité SI, il y a des difficultés, alors on va faire une action spécifique en disant ils n'ont peut-être pas compris sur la dimension de l'INS, peut-être pas compris que Azure Réseau Discussion ne remplace pas la messagerie sécurisée de santé, ça ne remplace pas non plus le DMP, on ne stocke pas des informations. Vous voyez, l'enjeu, c'est plutôt d'aller dire, grâce à cette évaluation de la maturité et la clarté des choses sur le terrain, on sait comment agir et mettre les bons moyens au bon moment, au bon endroit pour les bonnes personnes. La même chose avec les DAC. On sait aujourd'hui, sur la partie des addictions, sur la partie de l'enfance, des maladies chroniques, de la personne âgée, là on a affiché la personne âgée, donc il y a une maturité des DAC sur la personne âgée, c'est leur métier, donc évidemment, il y a une maturité pour tous. Mais vous voyez que par exemple, sur la partie de l'enfance, on a les trois quarts des DAC sur lesquels il y a encore des évolutions à faire sur ces dimensions-là. Donc nous, ça nous permet aussi de savoir où agir en premier. Et donc, il va falloir qu'on choisisse. On en est là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est qu'il y a des territoires pilotes à déterminer et ensuite les grappes qui vont suivre, qui vont être à constituer. Pour qu'on puisse savoir à quel endroit on agit, donc sur le cancer, sur PA, sur santé mentale, sur parcours insuffisance cardiaque, on a déjà un peu commencé sur Toulon, et puis ensuite pouvoir se dire, bah ça, cette partie-là, voilà où est-ce qu'on va pouvoir la reproduire au regard de ce qu'on a identifié sur le terrain, sur l'ensemble des autres CPTS. Et donc globalement, la stratégie globale, c'est fédérer une communauté, parce que vous l'avez compris, ça ne peut pas être juste quelques professionnels qui vont structurer un parcours, ce qu'on veut, c'est fédérer une communauté, faire le partage, on a avancé sur l'insuffisance cardiaque, il va falloir qu'on fasse le partage autour de cela et qu'on explique quelle est la partie qui a été prise en compte. Vous imaginez bien que dans les outils de coordination, on n'a pas inclus la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, mais on a résolu un problème, ou on tend à résoudre un problème qui va être la coordination entre la ville et l'hôpital, et un certain nombre de choses autour de la prise en charge. Derrière, les fameux, on appelle ça des PAC, il y en a quatre, qui correspondent à des packs d'évolution, je vous présenterai juste après. Et puis derrière, il faut construire des parcours autour de trois axes, qu'on verra aussi après, qui nous permettent de savoir à quel endroit nous sommes en train de travailler sur cette partie-là. Je vous présente rapidement les packs. Donc la partie sécurité, identification, partage et échange, coordination organisationnelle et prise en charge numérique, c'est là qu'on retrouve la partie parcours. Il faut être passé par les trois premiers ou être mature sur les trois premiers pour pouvoir faire de la prise en charge numérique. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on retrouve dans PAC 1 tout ce qui est l'aurore. Alors, je sais, il y a peut-être certains parmi vous qui ne savent pas ce que c'est que l'aurore, mais si on veut être dans un écosystème numérique sécurisé, il faut qu'on sache, aujourd'hui, si vous utilisez WhatsApp, n'importe qui peut s'appeler le docteur Tartière. Il suffit qu'il s'appelle le docteur Tartière dans WhatsApp. Il n'y a rien qui l'empêche. Donc, WhatsApp, c'est bien, ça permet des échanges, mais n'empêche que quand vous connaissez tous, ça va bien. Quand vous ne vous connaîtrez plus, parce que le territoire qui va faire de la coordination va faire que vous allez vous retrouver en face d'un certain nombre de professionnels de santé, il vaut mieux que ça soit vérifié. L'aurore, c'est ça, c'est géré par le BRAD, on y inclut les professionnels de santé, tous les professionnels de santé, et donc ils sont tous vérifiés. Donc quand vous allez utiliser les outils du CRAD, ils sont tous adossés au aurore, et tout ce qui est fait dans l'aurore est sécurisé. Vous allez retrouver évidemment la dimension d'INS, l'identité nationale de santé, qui va devenir opposable et obligatoire début 2023. Et puis vous avez toute la partie sécurisée, parce que vous imaginez bien que quand on décloisonne, et bien on crée des trous de sécurité, et donc il ne serait pas bon ton qu'on ait des données de santé qui se retrouvent sur le dark web. Donc voilà, ça c'est la première étape sur laquelle on agit. La partie partage et échange, donc, qui est la deuxième étape, c'est donc savoir ce que c'est que la NSS, vous savez ce que c'est que la NSS, mais dans l'écosystème, maintenant qu'on a l'impression qu'il y a un mid-feu qui est en train de se mettre en place, qu'est-ce que je fais de la NSS? Qu'est-ce que je fais de mon espace santé? Le DLP, ça vient quoi? On sait que ça avait disparu, mais non, c'est toujours là. Mon espace santé qui est adossé, à quoi ça sert? On sait le patient. Azure réseau, discussion, c'est pas fait pour remplacer la messagerie de santé. Il y a l'utilisation de tout cet écosystème, la manière dont les choses s'articulent. C'est des exemples, hein, des différentes étapes, hein, des éléments complémentaires. Il peut y avoir, par exemple, des informations qui vont être données sur une organisation qui peut être définie dans une CPTS mais qui va nécessiter une adaptation de l'hôpital, et peut-être qu'à l'hôpital ça ne fonctionne pas comme ça, que les sorties de split ou que d'anticiper sur une ordonnance de sortie, c'est pas si simple que ça. Savoir où sort un patient, c'est pas non plus si simple que ça. Ça veut dire que si dans une CPTS vous voulez organiser des sorties de patients en relation avec l'hôpital, il va vraiment falloir se coordonner avec lui, parce qu'il va falloir screener les patients pour qu'on sache où est-ce qu'ils vont. C'est pas forcément le cas non plus, c'est pas su. Les internes et les médecins seniors, ça fonctionne pas comme ça. Donc il y a tout un accompagnement sur tout ce partage et cet échange, la complexité associée à ça. Vous voulez envoyer des informations à l'hôpital en tant que médecin libéral pour éviter la recopie. C'est peut-être pas attendu par l'hôpital parce que vous avez tout regroupé les allergies dans votre logiciel de cabinet, et à l'hôpital tout est scindé, et tout regroupé dans une seule allergie, ça ne va pas les intéresser. Par contre, peut-être que de leur transmettre et de les voir pour les lire, ça peut être intéressant. Donc voilà, tout ce qui est partage, échange et un certain nombre de savoirs à avoir, là aussi ça fait partie du pack de formation. Derrière, c'est la coordination organisationnelle, on l'a dit tout à l'heure, ça ne peut pas fonctionner si on ne sait pas comment on va s'organiser. Et donc il y a deux étapes. Il faut d'abord savoir se parler entre professionnels, donc déjà se retrouver au travers des outils, de pouvoir avoir une coordination de base et un échange de base, avant de commencer à se dire, on va prendre en charge ce patient, personne âgée qui est diabétique, d'une manière concertée entre le territoire de ville et l'hôpital. Parce que ça, c'est beaucoup plus pointu et c'est beaucoup plus poussé. Par contre, ça n'empêche que si on n'a pas cette organisation sur la prise en charge d'un patient diabétique ou d'une personne âgée, qu'on ne puisse pas commencer à avoir des échanges au travers d'un dossier minimum commun régional. Ça, c'est possible. On peut commencer à avoir des échanges très standards. Et puis ensuite, la dernière étape, voilà, là, on voit que ça devient beaucoup plus structuré. Parce qu'il faut mettre tous les acteurs. Il faut mettre les EHPAD, il faut mettre les CPTS, les établissements de santé, les DAP, à toutes les étapes, tout le monde n'est pas concerné. Donc vous ne voulez pas non plus être alimenté perpétuellement de tout un tas d'informations que vous n'avez pas besoin de lire. Et donc ça aussi, c'est un élément auquel il faut faire attention. c'est que on se précipite vers les outils numériques et au début, ça nous paraît intéressant et souhaitable. Et c'est un peu comme les mails. Avant, c'était intéressant, et maintenant, quand on a transformé la gêne à la fin de la journée, on est beaucoup moins content. Donc là aussi, il va falloir qu'on fasse attention à ça, parce que quand on va commencer à dire qu'on se coordonne entre professionnels, on va avoir un nombre de messages incalculables. Et s'il faut chercher dans ce message quel est celui que je ne dois pas rater, ça va commencer à devenir un peu sport. Donc là, c'est l'enjeu, c'est aussi de se dire il faut segmenter, il faut savoir dans quelle étape on se trouve, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de m'envoyer comme message, dans quel cadre. Ça aussi, ça demande à ce qu'on se structure. Ça demande, là aussi, vous le voyez, hein, quand on était tout en bas et qu'on ne sait pas ce que c'est que l'INS, ou en tout cas qu'on n'est pas convaincu qu'il faille identifier le patient de la même manière. Et quand on réfléchit à l'étape d'après, la dernière, vous voyez que le gap il est énorme. Hein. Et il s'agit que tout le monde sur le territoire soit au bon niveau pour pouvoir intégrer les patients dans des filières.